Alors, Néhémie chapitre 2. On va retourner dans Néhémie chapitre 2. On a vu la semaine dernière que Néhémie avait un grand fardeau en entendant de son frère que les murs de la ville et les portes étaient toujours à terre, brûlés. On a vu qu'il était un homme avec un fardeau. On a vu qu'il était un homme pas impulsif, il a pris des mois de prière et de préparation, un homme de prière et un homme du livre. Il a réclamé les promesses de Dieu. Alors maintenant, Néhémie chapitre 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, on se rappelle que le vin ici dans la Bible, c'est le mot générique pour fruit de la vigne, que ce soit alcoolisé ou non, donc le contexte ne donne peut-être pas assez, mais ça semble vraiment pas être une situation de perdre son sens et d'être enivré. Donc ça se peut très bien que ce soit ici du vin normal. Je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. » Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donnait ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et on va s'arrêter là pour l'instant. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce passage, aide-moi de bien prêcher droitement ta parole et que les cœurs puissent être réceptifs à ces principes, Seigneur Dieu, selon le besoin de chacun, que ce soit la conversion, que ce soit la croissance et la fidélité, Seigneur Dieu, dans sa marche avec toi, Seigneur, on te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, le risque inévitable ici, se présenter devant son roi triste, c'était dangereux parce que comme le roi pouvait s'imaginer qu'il y avait un chagrin de cœur, qu'il y avait l'état d'être mal content de son règne. Et comme il a dit, jamais il n'avait fait ça. Il n'avait jamais osé amener quelconque tristesse personnelle dans son travail, quand il était en temps de travailler avec de servir le roi. Jamais il avait osé faire ça dans le passé. Là, c'était plus fort que lui. C'était plus fort que lui, ça faisait des mois qu'il priait et qu'il jeûnait et qu'il préparait la demande ou de sa vision de vouloir aller, mais il fallait qu'il obtienne la permission du roi. Alors là, c'est un peu comme ça l'a pris par surprise, c'était plus fort que lui, le roi le remarque. Et là, c'est comme, oups, j'ai laissé trop paraître ce qui était dans mon cœur. Donc, en faisant quelque chose à propos des problèmes, on s'expose au danger. C'est certain qu'il prend un risque. Il aurait pu simplement dire, ben, ça c'est trop risqué pour moi. Bon, ça c'est leur problème à Jérusalem. Moi, je suis bien ici, j'ai un travail, on va juste continuer ma petite vie tranquille. Mais quand on a à cœur l'œuvre de Dieu et de se porter volontaire devant Dieu pour faire quelque chose, voilà, c'est certain que ça nous fait sortir de notre zone de confort et ça nous expose à des risques. Mais la gloire de Dieu, ça vaut la peine Et la lutte pour la gloire de Dieu, ça a son coût et ça vaut la peine. Comme il dit dans Corinthiens 15:30, ça ne sera pas en vain de œuvrer pour le Seigneur. 1 Corinthiens 15:30. Autrement, non. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril si les morts ne ressuscitent pas? Pourquoi est-ce qu'on serait en péril? Là, au verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et 2 Corinthiens 11, 26. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et ici, il se place. Mais là, le roi remarque sa tristesse et lui, il dit tout de suite que le roi vive éternellement. Oh, roi, ne pense pas que ma tristesse est envers toi. Pas du tout, je désire que tu aies un long règne. Je suis loyal et content d'être à ton service, etc. Que le roi vive éternellement. Mais là, il dit, c'est ma tristesse, c'est vis-à-vis de moi personnellement et de ma ville, la ville de mes pères, les sépulcres de ses pères. Et la ville où sont les sépulcres de mon père est détruite. Donc la ville est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Alors le roi, que demandes-tu? Ah, la porte s'ouvre. Alors il dit, je prie. Et on sait que cette prière était très rapide, très courte, et je priais Dieu, le Dieu des cieux, et j'ai répondu au roi. Donc là, il n'a pas pris, attendez le roi, je vais faire une prière. C'était dans son cœur, c'était dans sa tête, c'était un cri de cœur. Dieu, maintenant, aide-moi. Et allons, et il se lance. Donc, il avait fait des préparatifs, il avait déjà planifié qu'est-ce que ça prendrait, etc., pour le faire, et donc sa requête devant le roi, elle est préparée. Et Dieu a travaillé dans son cœur pour qu'il pense à préparer la chose. Compter les coûts et les besoins, comme Jésus dit, Luc 24, il parle de compter le coût. Et quel roi, s'il voit une armée qui vient à lui, ne regarde pas l'autre armée, son armée, voir s'il est assez. Puis, allez, on regarde les besoins et on planifie en conséquence. Donc, comme nous dit aussi 1 Pierre 3,15, on prépare à répondre aux gens qui nous demandent. Il y a une préparation, soyez prêts. Donc 1 Pierre 3,15, mais sanctifiez dans votre cœur le Seigneur Dieu ou Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alors, d'être prêt, donc on doit se préparer à pouvoir répondre, donner réponse aux gens. Et Néhémie ici, il s'était préparé à ce qu'il va demander au roi par rapport au temps de pouvoir y aller. Il avait méticuleusement planifié et présenté. Donc, il y a un petit peu un dicton qui dit l'échec à planifier. Si on ne planifie pas, ben, on planifie échouer. Donc, l'échec à planifier, c'est planifier l'échec. Donc, on doit planifier. Il y en a qui sont naturellement mieux à planifier, mais on doit tous y travailler. Et comme Néhémie ici l'a fait. Donc, au verset 10, on va maintenant lire la suite là. Donc, le roi lui donne son feu vert et lui permet d'y aller. Néhémie avait même pensé aux lettres pour pouvoir avoir la permission officielle bien établie, bien fondée sur lettre, pour pouvoir démontrer qu'il avait la permission du roi. Alors verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc Israël a ses ennemis. Et on va voir, vous allez retrouver le nom de Sanballat, le Horonite et Tobija revenir beaucoup dans le reste du livre, ils attaquent et ils font beaucoup de grabuges dans leur haine contre Israël et contre la ville de Dieu. Et donc on va y revenir. Donc là, ils prennent un grand déplaisir de ce que quelqu'un cherchait le bien, rechercher le bien des enfants d'Israël. Verset 11. « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Donc là, on voit encore qu'il n'est pas précipité. Il prend le temps d'observer la situation. Il prend, après un long voyage, il prend 3 jours pour un peu reprendre ses esprits. Puis là, ensuite, il observe, prend le temps pour observer. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Donc là, c'est des vestiges. Fais le tour. Des vestiges. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Donc il a fait le tour autour des vestiges, beaucoup de place. Même sa monture avait de la misère à passer parce que les pierres étaient pêle-mêle détruites. Donc là, la reconnaissance de l'ennemi. Il savait qu'il y avait des ennemis, il savait que ce n'était pas la joie de tout le monde, que ça ne fera pas la joie de tout le monde. Des ressources humaines, il voyait qui était là et qui était disponible. Verset 16, là, les magistrats ignoraient où j'étais allé, où ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Et là, la sagesse et la discrétion. Il prend le temps d'observer, sans parler d'une façon prémature, de ce qui n'était pas prêt encore à parler. Donc c'est une bonne chose de réfléchir avant de parler, s'assurer qu'on ait réfléchi à travers ce qu'on va dire. La sagesse et la discrétion, c'est de ne pas être rapide et d'avoir pris le temps de réfléchir à travers ce qu'on va dire. Et on voit que Néhémie était plein de sagesse et de discrétion. On peut lire Proverbe 29, 11. Proverbe 29, 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Donc, l'insensé, il parle très rapidement, il dit tout ce qu'il pense. Le sage, il a du retenu. 15-23, Proverbe 15-23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Quand une parole est bien réfléchie, puis qu'elle est dite au bon moment, ben c'est une bonne chose. Et 25-11, Proverbe 25-11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi une parole dite à propos. Donc, une parole dite au bon moment, c'est une belle chose. Donc, comme Jacques dit, soyons lents à parler et vite à écouter. On va continuer à lire Néhémie 2, verset 17. Je leur dis alors. Donc là, il présente son plan. « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Quand on pense à cela, ça fait des dizaines d'années, là. Ça faisait quasiment un siècle, presque un siècle, depuis que c'était détruit. Ou non, grosso modo. Là, ça a été construit, on va le voir, en 52 jours. Imaginez-vous. Tout ce qui manquait, c'était de la volonté. Et souvent, les projets semblent gros, et certainement ils peuvent l'être. Mais si on s'y met, et aussi, tout le monde a mis sa main à la tâche. Chacun on va le voir, va travailler une portion du muraille devant lui. Et en fin de compte, ensemble, ils ont fait en 52 jours ce qui avait été enduré comme situation des dizaines d'années. Une très longue période, tout le monde pensait que c'était trop dur à accomplir. Alors, on voit ici la constatation du problème, verset 17a, Jérusalem est détruite, et nous sommes là dans la honte et l'opprobre. Ensuite, la solution, levons-nous, faisons quelque chose. Et la victoire est là, et il encourage, avec le verset 18, il partage comment Dieu avait déjà préparé la chose. Et ça, c'est ce qui est merveilleux, c'est que quand on marche par la foi et qu'on voit Dieu agir, ça va en encourager d'autres à aussi se rallier à la foi et à l'œuvre. La foi, ce n'est pas la foi passive, c'est une foi qui est prête à agir par obéissance. Et donc, Néhémie avait la foi et il avait aussi de l'obéissance d'agir selon la direction de Dieu. Et ça, ça a encouragé les gens. Les gens ont dit, waouh, Dieu est vraiment dedans. Et donc, quand on opère par la foi, ça va encourager aussi les autres à grandir dans la foi. Moi-même, à travers les différentes biographies que j'ai lues, à travers aussi les différentes périodes où ce que Dieu a répondu à des prières, ça encourage et ça encourage aussi de se lever et de bâtir. Donc là, ils avaient une tâche à faire. Levons-nous et bâtissons tangiblement. L'œuvre du Seigneur, elle est aussi à bâtir spirituellement, mais il y a des choses à faire physiquement pour que l'œuvre du Seigneur avance. Et donc, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais cette bonne résolution, elle va être testée. Ce ne sera pas un pique-nique. Verset 19. Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Gershem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Là, ça commence... c'est pas trop fort comme opposition. On va voir que là, ça en arrive au danger physique. Mais là, c'est la moquerie. Et c'est certain que ça ne va pas nous rendre populaires, nécessairement dans ce monde, de vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. Et donc, il ne faut pas se décourager dès qu'on commence à se moquer de nous. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole de Néhémie 2. Merci que Néhémie avait un fardeau, il avait un plan. Il avait une prière et tu lui as accordé sa requête et tu as permis que le roi lui donne la permission d'y aller et lui donne les lettres et lui donne tout le bois qu'il aurait besoin. Et tu as permis aussi que le peuple soit encouragé parce que tu avais déjà fait dans la vie de Néhémie et les permissions que tu avais données de la part du roi. Et le peuple s'est rallié. Et merci aussi que tu as permis qu'il y ait de l'opposition. Et tu vas montrer ta grande main à travers les prochains chapitres, Seigneur Dieu, pour montrer ta victoire même sur l'opposition qui s'est levée contre l'œuvre qui se faisait. Seigneur, aide-nous d'apprendre de ces principes-là pour aujourd'hui. Seigneur, ton œuvre est petite, Seigneur Dieu, en Guyane. Et Seigneur, on veut la voir avancer. Seigneur, on veut voir que les gens entendent parler de l'Évangile. On te prie que tu puisses sauver des âmes. On te prie, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs des tiens pour vraiment être fortifiés, à s'impliquer et à vivre pour ta gloire dans leur vie personnelle. Donc, Seigneur Dieu, on te prie que tu puisses faire avancer ton œuvre, Seigneur Dieu. Et merci de l'exemple de Néhémie, Seigneur. On te prie au nom de Jésus. Amen.